Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal. Grâce à Mzati à la présentation.
À la une de l'actualité, plusieurs pays dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Chine haussent les tons sur les atrocités des rebelles ADF en Ituri et de l'AFC M23 soutenus par les Rwandais dans le Nord et les Sud Kivu. Ils l'ont dit ce vendredi au cours de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Les déplacés de l'ODA en Ituri demandent l'installation d'une position des casques bleus sur leur site afin de faire face aux attaques récurrentes du groupe armé Codeco. Plaidoyer adressé mercredi au commandant des forces de la MONUSCO lors de sa visite dans la zone. L'invité de la rédaction ce soir est le président directeur général de l'entreprise CyberDev qui vient d'organiser une conférence sur la cybersécurité à Kinshasa. Nezi Mpanzu appelle à cet effet à la vigilance face aux connexions gratuites afin de se prémunir contre la cybercriminalité. Bonsoir à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU sous la présidence du Panama s'est réuni d'urgence ce vendredi à la demande des États-Unis d'Amérique. C'était pour une séance sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. L'unanimité a régné parmi les 14 membres qui ont pris la parole. Tous pointa du doigt l'escalade des violences et la persistance des exactions dans l'est du pays. Christian Mapindano.
La séance, ouverte par un débriefing de la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Pobi, a vu un défilé de condamnations sans appel. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine et de nombreux autres pays ont unanimement dénoncé les actes des groupes armés, citant spécifiquement les ADF en Ituri et l'AFC M23 soutenu par le Rwanda dans le Nord Kivu. Les membres du Conseil ont déploré le fossé grandissant entre les avancées diplomatiques, comme l'accord de Washington, et la situation catastrophique sur le terrain. Leur message est clair, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables. Ils ont insisté sur le respect des engagements pris et la protection des civils conformément au droit international humanitaire. Cet appel unanime à la désescalade s'accompagne d'une demande de mise en œuvre de la résolution 2773 et la levée de toutes les restrictions imposées à la MONUSCO par les rebelles. Le Pakistan a souligner l'inacceptabilité de toute tentative de légitimer le contrôle de portions du territoire congolais par les groupes armés. Dans une position de plus en plus isolée, le représentant du Rwanda s'est montré sur la défensive, qualifiant de fallacieuses les graves accusations portées contre l'AFC M23 et son pays.
Entre-temps, les pourparlers entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 reprennent cette semaine au Qatar. Selon des sources proches des négociations, les délégations des deux parties sont déjà sur place à Doha. N'est-ce pas, Marcel Papimukeba?
La délégation de l'AFC M23 dépêchée à Doha est essentiellement technique. D'après nos sources, la rébellion souhaite d'abord examiner les dispositions pratiques liées à la mise en œuvre du cessez-le-feu et à la libération des prisonniers conformément à la déclaration de principes signée avec les gouvernements congolais. Du côté de Kinshasa, aucune information n'a filtré quant à la composition de sa délégation. En parallèle, avant leur arrivée à Doha, la médiation a transmis aux deux parties un projet d'accord de paix global. Sur son compte X, Massad Boulos, conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, salue la reprise des négociations RDC-AFC M23 facilitée par les Qatar. Selon lui, ces pourparlers, basés sur la déclaration des principes de juillet, sont essentiels pour un accord de paix et la protection des communautés. Les États-Unis appellent à cesser immédiatement les violences contre les civils et à respecter les engagement pris pour la paix et la stabilité. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
À ce sujet, l'opposant congolais et président de la coalition Lamuka Martin Fayulu affirme que la rencontre à Doha au Qatar entre les délégations du gouvernement congolais et de l'AFC M23 doit poursuivre un seul objectif, imposer le cessez-le-feu et garantir l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux délégations sont sur place pour poursuivre les pourparlers après que la médiation qatari a présenté un projet d'accord de paix globale, comme nous disait tantôt Martial Papimukeba. Sur son compte X, anciennement Twitter, Martin Fayulu précise que tout le reste relève du dialogue inclusif entre Congolais sous la médiation de la CENCO et de l'ECC avec le soutien de l'Union africaine. Nous sommes à Ituri. Le comité des déplacés victimes des conflits armés installé sur le site de Loda, territoire du Djougou, plaide pour l'implantation d'une position de casque bleu sur leur site afin de faire face aux attaques récurrentes du groupe armé Codeco provenant des entités voisines. Depuis mai 2023, ces attaques ont déjà coûté la vie à 22 personnes. La demande a été formulée mercredi au commandant des forces de la MONUSCO lors de sa visite dans la zone. Le point avec Jean-Claude Lokidile qui était sur place.
Le site de Loda, qui abrite actuellement plus de 6000 personnes, n'est protégé par aucune force régulière. Un vide sécuritaire qui expose les habitants aux attaques des miliciens. Safari Malo, président du comité des déplacés.
Vous allez voir ensemble avec nous que UPDF se retrouve très loin à Fatak. Et la FARDC aussi à Fatak. Et encore la MONUSCO vers ce côté aussi. Et imaginez que, qu'est-ce qui peut se faire dans l'axe État. C'est ça, c'est que on recommande que la MONUSCO puisse être installée ici avec nous.
Face à cette requête, le commandant des casques bleus, le général Ulysses de Mesquita Gomesh, a reconnu les limites de la mission en termes de moyens humains. Toutefois, il a promis de capitaliser les forces disponibles pour renforcer la protection des populations déplacées.
Nous aimerions bien pouvoir rester avec vous en permanence. Cependant, cela n'est pas possible. Nous sommes limités par les moyens. C'est pourquoi nous organisons des patrouilles afin de montrer notre présence et de protéger non seulement vous, mais aussi les autres populations.
Le général Ulysses de Mesquita Gomesh a également appelé à la synergie entre la MONUSCO, les FARDC, la police et les autorités locales afin d'assurer une bonne protection aux victimes des violences perpétrées par des groupes armés dans la région. De retour de Fataki, Jean-Claude Lucky, d'Ile Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, 35 enfants en rupture familiale ont été à nouveau réunis à leur famille biologique à l'issue d'une retraite organisée par l'association Caribou. La cérémonie de clôture de cette réunification s'est tenue hier. Ces enfants ont reçu par la même occasion les fournitures scolaires de cette association caritative créée en 2003 qui, outre la récupération des enfants vivant dans la rue, lutte aussi contre la pauvreté. Suivez le déroulement de cet événement avec Josué Kefebe.
C'est dans cette ambiance que s'est clôturée cette colonie des vacances. Les parents et leurs enfants unis à nouveau au grand bonheur de tous. La remise des tissus d'uniformes, des cahiers et des stylos par les présidents des Caribous est venue compléter la fête. Léonard Matamba précise qu'à travers cette retraite des 23 jours, la SBL aide les enfants à découvrir leur potentialité.
Caribou, c'est une organisation qui s'occupe de la réunification des enfants dans la rue, dans leur famille. Nous luttons contre la pauvreté. Nous arrivons à leur aider à découvrir leur potentialité.
Des enfants récupérés jadis par Caribou ont l'air tout témoigné de son soutien continu dans leurs études. Certains ont pu obtenir leur diplôme d'État.
C'est une bonne chose, ça nous a vraiment aidés et soutenus. Ça nous a pris de loin et maintenant là on est des diplômés. Vraiment, ça a beaucoup soutenu ma maman et beaucoup vraiment aidé même dans ses commerces.
Un des parents présents exprime ici sa gratitude.
Plusieurs enfants sont dans la rue, mais Caribou l'a fait que les enfants progressent. Voilà pourquoi nous, les parents, on est très contents. On souhaite de bons progrès à cette structure, même si elle n'a pas aidé toute la capitale Kinshasa, mais elle a aidé plusieurs familles. C'est pourquoi nous la remercions.
C'est votre zone, c'est merci, ami.
Depuis sa création en 2003, Caribou a réuni 1600 enfants en rupture familiale avec leur famille biologique. Plusieurs sont devenus des cadres dans des entreprises.
À moins de deux semaines de la rentrée scolaire, pas d'engouement chez plusieurs couturiers de la ville de Kinshasa, d'habitude envahis par des demandes de confection d'uniformes pendant cette période. C'est là que ce soit au marché central de la capitale ou à la cité. Ce que nous avons trouvé entre les coudres des uniformes à Zando affirme que les commandes sont plutôt faibles. Et pour eux, la vente de ces articles par des écoles, les uniformes importés déjà cousus et le manque d'argent par les parents gâchent leurs affaires. Abraham Kabuka a visité quelques couturiers. Voici son reportage.
En temps normal, en cette période, les couturiers sont inondés de commandes. Mais étonnement, cette année, coudre des uniformes ne semble pas intéresser les parents. Certains coutureux se demandent si c'est parce que beaucoup de parents se plaignent du manque d'argent. Pourtant, la rentrée scolaire approche. Ces couturiers rencontrés au marché central s'inquiètent de ces manques d'engouement.
Nous ne savons pas comment nous allons vivre. La rentrée scolaire pointe à l'horizon, mais il n'y a pas d'engouement des clients.
Nous, personnellement, nous avons confectionné beaucoup de tenues, mais les clients ne viennent pas. L'argent ne circule pas.
Au constat, certains parents préfèrent acheter le prêt-à-porter venu de Chine et de Turquie plutôt que de se procurer des tissus et de confectionner auprès des couturiers sur place ici à Kin. Ces couturières demandent aux autorités compétentes de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises ne subissent une concurrence déloyale par rapport aux importations. C'est là dans le souci de résoudre le problème de chômage et encourager la consommation de produits locaux.
Nord Kivu, la radio communautaire Saki FM, émettant sur la fréquence 16.4 MHz à partir de la cité de Saki, territoire de Masisi, connaît d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Une situation qui dure depuis près de 3 ans maintenant. Pour se soustraire aux retombées directes des affrontements armés dans le groupement Kamuronza, le responsable de cette radio avait réussi à se déplacer avec le matériel nécessaire jusqu'à Goma. La radio Saki a diffusé en faveur des familles déplacées internes qui étaient dans tous les sites érigés au quartier Mugunga. De retour à Saki, après l'occupation de la ville de Goma par la rébellion du M23, le responsable de ces médias n'a rien retrouvé du reste du matériel de la radio. Le studio de diffusion a été vandalisé et tous les effets emportés. Ismaël Matungulu, directeur des programmes de la radio communautaire Saki, sollicite une assistance pour la reconstitution de ces médias. On l'écoute.
Nous avons laissé tous les matériels nécessaires de la radio, notamment il y avait des ordinateurs, des appareils à enregistrer. On a rencontré, en tout cas, le studio a été vandalisé. Également, ma maison a été aussi détruite. Nous utilisons surtout notre émetteur que nous sommes déplacés vers Mugunga. Nous utilisons avec les petits mixeurs et les petits générateurs. Pour le moment, nous travaillons avec 7 journalistes. Et parmi ces 7 journalistes, 3, ils ont déjà abandonné la radio Saki FM à cause de manque de matériel. C'est pour cela qu'on est en train de demander une aide aux organisations qui interviennent dans les domaines des médias de nous aider avec quelques matériels nécessaires, notamment les ordinateurs qui peuvent traiter les informations récoltées au sein de la population du Kamuronza, parce que c'est les radios qui émet à Saki. C'est pour cela que nous lançons NSOS aux partenaires, comment voir construire également notre ancien studio de la radio communautaire Saki FM.
Dans le même registre, cette fois-ci au sud Kivu, l'ONG journaliste en danger JET, une organisation œuvrant pour la liberté de la presse, exprime sa vive préoccupation face aux menaces des fermetures de certains médias à Bukavu proférées par la rébellion AFC M23. Dans un communiqué publié hier, JET rappelle que l'accès à l'information est un droit fondamental tout en dénonçant les intimidations visant à museler la presse locale. Ronéline Tibonera a lu ce communiqué pour nous et nous propose ses condensés.
Selon Journalistes en danger qui s'appuie sur des informations recueillies auprès des sources à Bukavu, les menaces ont été proférées lundi lors d'une rencontre avec le responsable des médias. Lors de cette réunion, les médias opérant dans la zone ont été sommés de se conformer aux nouvelles dispositions imposées par la rébellion dans les secteurs de l'information et de la communication. Dans un contexte économique déjà difficile, JED révèle que les médias ont été contraints de payer des redevances aux autorités de facto. Parmi les taxes exigées figurent la redevance annuelle fixée à 250, l'autorisation de fonctionnement des 100 dollars, l'assignation des fréquences, 200 dollars pour la radio et 400 dollars pour la télé. Toujours selon JET, ce cadre de la rébellion a averti que tout média qui refuserait de se soumettre à ces exigences s'exposerait à une fermeture immédiate. Les professionnels des médias ont également reçu l'ordre de ne pas diffuser d'informations valorisant le pouvoir de Kinshasa, le FRDC ou l'Erzali Ouazalendo, une ingérence jugée inacceptable et illégale par JET. L'organisation appelle les responsables de la rébellion à retirer ces mesures qu'elle qualifie de coercitives et invite les médias à se mobiliser contre cette atteinte grave à la liberté de la presse.
Actualité internationale.
La saison des pluies se poursuit au Niger et comme chaque année, le pays connaît plusieurs semaines de précipitations qui s'accompagnent régulièrement d'inondations. Le bilan officiel communiqué par les autorités est important avec une 50aine de morts jusqu'ici, mais loin de celui de 2024, les inondations avaient fait plus de 1,5 million de sinistrés.
L'invité.
L'entreprise CyberDev a organisé il y a 2 semaines une conférence sur la cybersécurité ici à Kinshasa. Le président directeur général de cette société, Nezi Panzo, appelle à la vigilance face aux connexions gratuites afin de se prémunir contre la cybercriminalité. Il conseille également aux internautes d'éviter d'ouvrir les messages provenant d'adresses inconnues. Nezi Panzo recommande en outre aux autorités de la RDC de mettre en place une cybersécurité robuste, capable de retracer tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques en vue de les traduire en justice. Il répond ici aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Nezi Panzo.
Bonjour Monsieur Blaise.
Plusieurs entreprises, plusieurs institutions privées comme publiques, voire même des personnalités font face à la cybercriminalité. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cette terminologie cybercriminalité?
Donc, la cybercriminalité, c'est en fait la technologie qui est mise en place pour en fait détruire les institutions, détruire les entreprises, voler les données, détruire les systèmes informatiques mis en place d'une société et d'une nation. Et elle a comme principe de détruire trois choses, l'intégrité des données, c'est-à-dire que les données sont changées, elles ne sont pas ce qu'elles devraient être. La confidentialité des données, c'est-à-dire que celui qui a accès aux données n'est pas le seul qui en a accès. D'autres personnes arrivent à avoir accès à des données qui sont confidentielles. C'est une manière de faire en sorte que les données ne soient pas disponibles, ne soient pas à notre disposition lorsqu'on en a besoin.
Est-ce qu'il y a-t-il des astuces pour déceler un cybercriminel?
Oui, il y a des astuces. Par exemple, lorsque vous allez dans un lieu public comme dans un aéroport et que vous voyez une connexion ouverte qui peut-être n'a pas de nom, qui ne porte même pas le nom de cet aéroport-là, il faut être prudent parce que ça peut être un cybercriminel qui essaye de voir tout celui qui sera connecté dans ce Wi-Fi-là pour pouvoir avoir les données. Parce que ces données-là, ce sont des échanges qui sont faits entre un ordinateur et un serveur. Alors, lorsque vous allez peut-être sur google.com, vous envoyez vos données en fait. Vous envoyez votre adresse IP, vous envoyez les logiciels que vous avez, les accès que vous avez lorsque vous enregistrez peut-être dans un site internet. Et si ce Wi-Fi-là n'est pas sécurisé, celui qui a mis cela en place sera capable de vous le ravoir. Il y a aussi, par exemple, le phishing. On vous envoie un email dont vous ne connaissez pas la source et qui vous dit « Hey, cliquez ici, vous avez gagné 1 000 $ ». Si vous cliquez là sans vérifier exactement la source de ce mail-là, vous avez été attaqué. Ou un site internet qui ne porte vraiment pas le nom de votre entreprise. Par exemple, j'en ai l'exemple, pour que ce soit okapi.com, vous voyez okap et le i, on remplace avec un l. Si vous n'êtes pas prudent, vous pensez que c'est okapi, vous cliquez là-bas alors que ça a été mis par un hacker et il arrive à avoir accès à vos données personnelles. Voilà quelques astuces pour déceler que vous avez une atteinte d'attaque.
Quelles sont les conséquences de la cybercriminalité sur les plans économiques, sociaux, voire politiques?
Les conséquences sont vraiment dévastatrices. Par exemple, l'entreprise où je travaille, T-Mobile, nous avons eu des millions d'essais d'attaques. Mais si une seule attaque arrive à ses fins, c'est plus de 10 millions de dollars que nous perdons parce que ça sera une poursuite judiciaire. Vous savez, un utilisateur peut nous poursuivre pour ne pas avoir sécurisé ses données. Si ces données arrivent dans les mains d'un hacker et que ces hackers-là arrivent à trouver son adresse, l'adresse de sa femme, de ses enfants et toutes ses données bancaires, mais cet utilisateur va porter plainte dans les poursuites légales, l'entreprise doit payer. Donc vous voyez que c'est une perte économique, c'est aussi une perte dans la réputation de l'entreprise. Si vous êtes réputé comme étant faible en matière de défense de cybersécurité, vous perdez des clients, vous perdez de l'argent, vous perdez des opportunités. Il y a aussi seulement la réputation de la personne elle-même. Quelqu'un peut avoir accès à vos données et commence à publier des contenus qui ne sont pas décents, ça atteint à votre propre morale et à votre personnalité.
Est-ce qu'il y a-t-il moyen de traîner un cybercriminel devant les cours et tribunaux?
Bien sûr, il y a moyen de le faire. Voilà pourquoi je salue vraiment les avancées qu'il y a en RDC par rapport aux lois numériques, par rapport à la Commission nationale de la cybersécurité. Pour arriver à retracer en fait un hacker, il faut avoir les technologies qui sont capables de le faire. Voilà pourquoi nous lançons ce cri d'alerte-là aux autorités de ce pays, de se pencher à ce que nous proposons, non seulement pour les institutions, mais pour les entreprises, avec une technologie en place et une cybersécurité bien définie, une architecture sécurité solide. Nous pouvons retracer tout celui qui essaye de nous causer du tort et puis nous pouvons facilement les traîner à la justice.
Alors, quelles sont ces différentes technologies, si vous pouvez les citer?
Je peux vous donner quelques exemples. Nous avons ce qu'on appelle des firewalls. Des firewalls, c'est simplement des régulateurs des trafics Internet. C'est-à-dire que je peux me décider au aujourd'hui de bloquer une telle partie de la population, une telle partie du pays, de ne pas accéder à mes sites internet, peut-être parce que cette partie du pays est déjà sur les mains des adversaires dont nous bloquons toute atteinte qui vient de ce côté-là. Nous pouvons aussi réserver, ça, on appelle ça des whitelists, c'est-à-dire que je peux prendre juste certains ordinateurs ou certaines personnes qui peuvent avoir accès pour vraiment être sûr que ceux qui ont accès à nos données sont seulement ceux-là qui devraient avoir accès. Donc, nous pouvons aussi avoir ce qu'on appelle des endpoint protection, qui est beaucoup plus connu sous le nom de antivirus. Nous mettons des antivirus dans nos ordinateurs qui analysent les comportements, les données, les entrées, les navigateurs et tout cela, et nous provient lorsqu'il y a quelque chose de louche qui vous...
Monsieur Nezi Mpanzu, nous vous disons merci.
Merci à vous, monsieur.
Notre invité était avec Blaise Ndongala Mayanda, exactement 18h20 à Kinshasa. Une heure de plus si vous nous écoutez à Kindu, dans la province du Maniema. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et Jean Ganduka Bongo. La mise en onde de Pierre Diassinois. Merci de l'avoir écouté et de le retrouver sur www.radiocapi.net.